Divergence numérique, 16e émission. Bonne année à tous, émission de janvier. Gilles Gouget vous cause dans le micro rouge. Et puis, eh bien, il est accompagné d'Albert Bruck, Jean-Claude Stiegler. Anthony est avec nous de l'autre côté de la vitre et de Dimitri Robert. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors, un sommaire eh bien, plutôt bien rempli comme à l'accoutumée, puisque eh bien, nous parlerons tout d'abord de jurispedia.org, un équivalent à Wikipédia, un équivalent juridique. Guillaume Cailleux sera avec nous pour en parler, avec un collègue à lui, lui-même aussi étudiant à la fac de droit de Montpellier. Et puis ensuite, eh bien, nous aurons les nouvelles du front. On parlera évidemment des brevets logiciels et autres joyeusetés, avec eh bien, aussi des petites nouvelles de la gendarmerie qui va passer open office aux grandes dames de notre ami de Redmond. Et puis on aura aussi par téléphone Dominique Godon du groupe du même nom qui nous parlera de l'arrivée des licences Creative Commons en Italie et du lancement de la plateforme de téléchargement de musique-libre.org. Suite à quoi, eh bien, un peu plus tard, nous aurons Thierry Stowe au téléphone qui nous fera une petite chronique. Il va notamment nous parler de Solutions Linux qui se tient les 1er, 2 et 3 février si ma mémoire est bonne, et un salon d'ailleurs sur lequel le constructeur Arcos sera présent. Ça mérite d'être noté. Et puis après l'intervention de Thierry Stoer, eh bien, nous parlerons évidemment de l'agenda du libre. Mais pour l'heure, eh bien, on est en compagnie de Guillaume Cailleux. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et de son acolyte dont j'ai oublié le prénom, mille excuses.
Bonjour, c'est Jean-Philippe.
Voilà, alors vous êtes tous les deux étudiants à la fac de droit de Montpellier. Alors jurispedia.org, c'est un site, comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu comme Wikipédia, c'est-à-dire c'est une encyclopédie destinée à tous et au plus grand nombre, qui, ben, sous le modèle du libre, tient à communiquer ben, tout ce qu'il y a à savoir sur le droit, etc. Alors comment s'est monté ce projet? Est-ce que c'est né à... c'est une initiative, on va dire, montpelliéraine?
Exactement. En fait, le projet est monté par Hugues-Jean Vibert, mais repris par tout le labo de recherche de la RID. Il est mené conjointement avec l'équipe de l'IFRI, qui est l'université de la SAR, mm-hmm. et l'université de l'UQAM à Montréal, au Québec.
D'accord. Donc c'est un projet vraiment mondial, quoi.
Mondial, oui, tout mm-hmm. à fait.
Alors il est porté donc par l'équipe de recherche informatique et droit. Mmh. Justement, bah, qu'est-ce que c'est cette équipe de recherche informatique et droit?
C'est une équipe dirigée par le professeur Bibend qui a ouvert l'informatique juridique à Montpellier dans les années 70. Mmh.
Qu'est-ce qu'on entend par informatique juridique?
Ça peut être le droit pour l'informatique et l'informatique pour le droit.
D'accord.
C'est les deux en fait. Mmh. Ça peut être du traitement. Le traitement de l'information pour la jurisprudence, où on peut étudier aussi, par exemple, on est en train d'étudier les licences Creative Commons aussi.
Voilà, justement. Voilà, qui sont les contrats Creative Commons sont passés dans le droit français au mois de novembre, et ça c'était plutôt une bonne chose suite au travail de notre ami Jean-Baptiste Souffron et de sa collègue. Et puis, le Wikipédia, pour ceux qui connaissent déjà ou pour ceux qui connaissent pas, c'est un site qui est disponible en plusieurs langues. Évidemment, dans la partie anglaise, il y a beaucoup plus d'articles. Je crois qu'il y en a à peu près 500 000 ou un truc comme ça, alors qu'il y en a à peu près deux fois moins dans la partie francophone. En ce qui concerne Jurispedia, ça se passe comment? Est-ce que c'est tout francophone?
Il y a une entrée en cinq langues, il me semble. Ouais. Donc c'est en français. On a aussi donc un portail en arabe qui marche très bien d'ailleurs. Mm-hmm. Donc c'est aussi disponible en anglais, en espagnol et je crois qu'on a fait le tour.
En allemand.
Et en allemand. Voilà.
Et en allemand. Ça représente combien d'articles?
Je crois qu'on a 600 pour le français, ouais. Et c'est la version allemande qui suit de plus près. Et en fait, pour les autres versions, c'est encore un peu, ça n'a pas bien démarré encore. Mmh. Voilà.
Donc j'imagine qu'il y a aussi pas mal de contributeurs qui travaillent dessus.
Oui et non. En fait, le projet est de 2 mois seulement, mais il a une croissance assez pas trop négligeable. Mmh. Et la version arabe commence bien à marcher. On D'accord. a un peu plus de soucis pour la version anglaise. Mmh.
Parce que vous n'avez pas assez de gens qui postent ou qui font du travail dessus?
On n'a pas encore réussi à avoir de réel contact, de lien avec l'université. Pour la version en allemande, on a une université allemande, la version arabe. On a beaucoup de contacts avec l'Algérie, le Liban, et, la Syrie. Mm-hmm. Mais pour les Anglais, on n'a pas d'Anglais, par exemple, dans l'équipe de recherche. Mm-hmm.
Donc c'est un projet tout neuf, en fait.
Ouais, deux mois, juste mm-hmm. deux mois.
Deux mois, et malgré tout, le site est en ligne. On peut d'ores et déjà aller voir ce qui s'y passe. Est-ce que ce site a été fait avec des logiciels libres ?
Tout à fait, mais là je vais laisser la place à Jean-Philippe.
Oui, c'est exactement le même moteur que Wikipédia, donc, mm-hmm. qui est utilisé. Et donc, tout est fait par donc, un logiciel libre. Ouais, c'est hébergé sur le serveur Linux, donc il n'y a pas de souci.
D'accord.
Oui, donc si j'ai bien compris tout ce que vous avez dit, ce site va aider les gens qui travaillent principalement dans l'informatique à avoir des informations sur les rencontres juridiques qu'ils peuvent avoir au niveau de la création de leur application ou des contacts qu'ils peuvent avoir avec les créateurs.
Pas exactement. En fait, les READ, c'est donc informatique juridique, mais le projet Jurispédia, c'est une encyclopédie juridique généraliste.
Au sens large.
Voilà. Mmh. Et donc, en fait, c'est destiné aux professionnels du droit pour appréhender donc le droit à l'international, puisque c'est divisé en sections géographiques. Et c'est aussi destiné aux non-juristes pour appréhender, enfin, avoir des clés de domaine intellectuel juridique de manière accessible facilement sur Internet. Donc.
D'accord. Et on sait que, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des brevets, il y a des différences au niveau de la loi européenne et la loi américaine. C'est-à-dire que pour l'instant, en Europe, on a un organisme qui s'appelle l'OEB, l'Office international européen des brevets. Aux États-Unis, il y a un énorme organisme qui enregistre, lui, les brevets. Là-bas, c'est légal. Ici, l'organisme est, lui, encore dans l'illégalité, malgré ce que voudraient faire certains ministres et députés européens. Est-ce que vous faites les rapprochements, les rapports entre ces trucs en expliquant aux gens comment ça se passe au niveau juridique ?
Alors. Enfin, tout est une histoire de contributeur, donc et pour le moment ça démarre juste. Si c'est un article, je crois que c'est pas traité encore exactement. On a des articles qui sont très actuels. Par exemple, il y a des articles sur les licences Creative Commons, les licences Cécile, etc. Mais on a aussi donc des aspects qui sont pas faits encore. Mais par exemple, pour répondre plus directement, il y a un accès par notion de droit comparé, donc justement pour comparer les grands systèmes juridiques anglo-saxons et continentaux, par exemple.
Et on pourra intercroiser entre la version anglaise, la version arabe et allemande et espagnole. La personne multilingue pourra avoir une autre vision avec plusieurs angles d'attaque, en fait. Donc avoir un meilleur savoir.
D'accord. Et on trouvera ces synthèses aussi par chaque langue de manière.
Ouais, et on pourra intercroiser en fait.
Voilà, il y a un gros travail de traduction de toute façon qui est donc des contributeurs uniquement linguistiques sont recherchés également.
Voilà, alors tant qu'on en est à l'appel à projet, mis à part des contributeurs qui pourraient apporter leur multilinguisme ou leurs compétences linguistiques, de quoi vous avez besoin ?
Alors, bon, déjà, ça s'adresse directement à tous les juristes, donc que ce soit universitaires ou professionnels, des avocats, etc.
Étudiants aussi, éventuellement.
Les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui participent. Et on peut aussi, en fait, tous les gens qui sont amenés à avoir une expérience du droit, pas forcément en y travaillant, en étant leur travail.
Le particulier qui a des gros problèmes, par exemple, un gros procès, aura plus d'expérience qu'un avocat, par exemple.
Mmh. Voilà.
D'accord.
Et, on peut penser aussi tout ce qui est du syndicalisme, etc., qui sont très performants en droit du travail. Bon, on peut citer pas mal d'exemples comme ça. Donc des gens qui sont à même de contribuer dans leur domaine de compétences sur Jurispédia.
Et pour ce faire, bah, il suffit qu'ils aillent sur le site, qu'ils se fassent connaître en envoyant un mail, ou etc. Et...
En fait, on s'inscrit, c'est extrêmement simple. Il suffit d'entrer un pseudo, un mot de passe, et puis on a accès. Mmh. On peut participer de manière enregistrée, mais on peut également participer de manière anonyme. Sans s'enregistrer.
Malgré tout, les éventuels articles qui sont postés par ce biais, bah, y a des modérateurs, il y a des gens qui contrôlent. Ça risque de devenir un travail important. S'il y a des milliers et des milliers de personnes qui se mettent à contribuer, peut-être qu'il faudra un staff un peu épais de personnes pour contrôler tout ça, non ?
Exactement. Donc, en fait, il va y avoir normalement un comité pas exactement de modération, mais pour tenir une certaine ligne éditoriale, en fait. Mais le principe du wiki, quand même, c'est une autorégulation par les utilisateurs. Donc, c'est uniquement pour donner des grandes lignes et éviter les abus qu'il pourrait avoir. Voilà.
Et le système est très simple. On a eu une toute petite attaque de vandales et en 30 secondes, on l'a remis. C'était sur un serveur anglais, on avait des pubs et on les a enlevés très facilement en fait. Et c'était, nous, on était de simples, on agissait en tant que simple intervenant et tout toute personne peut rétablir les problèmes en 30 secondes. C'est comme le Chanel au roseau. Et le système est très souple, mais est très résistant. En fait. Mmh.
Très bien. On rappelle l'adresse, évidemment, c'est jurispedia.org, jurispedia.org. Et puis on se tiendra au courant de l'évolution de ce projet, qui, on le rappelle, a que 2 mois d'existence, mais malgré tout, le site est déjà là, déjà visible et très lisible.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Les nouvelles du front de cette 16e divergence numérique. On va commencer avec Jean-Claude et des nouvelles de FFII.fr.
Oui, alors c'est un long feuilleton, cette histoire de brevet. Vous saviez que le 20 décembre, la Commission européenne avait mis devant une réunion des ministres de l'Agriculture et de la Pêche le point des brevets en tant que point A, c'est-à-dire qu'il devait être voté sans discussion. Heureusement, un ministre polonais est venu à taper du poing sur la table en disant que c'était absolument inadmissible. Donc ça a été retiré de l'ordre du jour. Malgré tout, c'est revenu devant la même réunion de Conseil des ministres de l'Agriculture et de la Pêche il y a quelques jours, le 24 janvier. Heureusement, encore une fois, la Pologne a dit non. Et maintenant, ça doit revenir devant les membres de la commission jury qui, là, sont des parlementaires pour que ces parlementaires, à la demande de 61 parlementaires européens, proposent une nouvelle première lecture, ce qui veut dire que nous repartirions complètement à zéro sur cette discussion de directive européenne devant le Parlement, ce qui serait, là, c'est sûr, la meilleure des solutions. Donc il nous reste à souhaiter que ça se passe bien comme ça. Maintenant, les problèmes de majorité n'ont pas changé, c'est-à-dire que la Pologne, la Hollande ont vraiment changé d'avis. Il n'y a plus de majorité qualifiée. Il se dit dans les couloirs du Parlement européen et de la FFII.org que beaucoup de gouvernements européens commencent à prendre réellement conscience de l'importance de ces problèmes de brevets en Europe, ce qui semble tout à fait logique. Puisque presque tous les gouvernements européens sont en train d'adopter l'usage des logiciels libres dans leurs administrations et dans leurs ministères. Donc il faut être cohérent, quoi. Souhaitons maintenant que ça aille au bout. Alors il faut rester très très vigilant. Même si on ne connaît pas grand-chose à la question des brevets, il faut alerter vos eurodéputés, il faut alerter vos élus de façon pressante et rapide. Parce que, par exemple, il y a eu hier une réunion à l'Assemblée nationale d'une commission dont j'ai oublié le nom, mais qui a invité le vice-président de la FFII à s'exprimer. Ouais. Et je crois que là, tous les groupes parlementaires, les présidents de groupes parlementaires qui étaient présents, ont bien pris conscience de l'importance non seulement technique, mais politique de cette question.
Justement, j'y viens tout de suite. C'était donc hier soir que le groupe d'études Internet, technologie de l'information et de la communication et commerce électronique à l'Assemblée nationale a invité Gérald Cedrati-Dinet, vice-président de la FFI, à une audition afin de lui exposer les problèmes concernant les brevets logiciels. Les coprésidents Patrick Bloch du PS, Patrice Martin-Lalande de l'UMP et André Santini de l'UDF ont approuvé le constat présenté et proposé d'en référer dans une déclaration conjointe à la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne. Alors, proposer d'en référer, c'est bien de le dire. Encore faut-il que ça soit suivi. Je crois qu'effectivement, il ne faut pas baisser la garde. C'est justement quand on se dit que finalement, ça va aboutir, on peut être optimiste, qu'on risque justement de se faire passer le machin sous le nez. Je voudrais juste citer le début du discours que Gérald Cedrati-Dinet, le vice-président de la FFI, a donné. Rien que l'introduction, ça plante un petit peu le décor. Bonjour mesdames et messieurs les députés, je suis vice-président et représentant en France de la FFI, en français l'association pour une infrastructure de l'informatique libre. Elle regroupe plus de 20 000 membres, dont environ 1300 entreprises, 2000 PDG de PME. Elle représente les intérêts de plus de 50 000 supporters à travers toute l'Europe, sur 80 000 au niveau mondial. La pétition qu'elle a lancée pour une Europe sans brevet logiciel a recueilli à ce jour plus de 380 000 signatures. Je suis devant vous aujourd'hui parce que nous avons un problème avec les brevets vrai logiciel. Alors, il parle de ce problème qui a des conséquences à la fois économiques, démocratiques et politiques. Et il précise aussi que le problème des brevets logiciels en Europe est réglementé par la Convention sur le brevet européen, signée à Munich en 1973, qui interdit explicitement la brevetabilité des logiciels en tant que tels. Donc il dit que ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas un problème car un logiciel c'est une description, un manuel qui décrit comment faire des choses. C'est quelque chose que vous connaissez très bien, mesdames et messieurs les députés, puisque l'écriture d'un logiciel c'est très semblable à la rédaction d'une loi. Non, le problème n'est pas dans le fait que le droit européen interdise de breveter les logiciels. Le problème, mesdames et messieurs les députés, c'est que l'Office européen des brevets et les offices nationaux, dont l'INPI en France, ont commencé à accepter contre l'esprit et le texte de la loi des brevets sur les logiciels. Pourquoi ont-ils accordé des brevets logiciels ? Tout simplement parce qu'ils avaient tout intérêt à le faire. Pourquoi avaient-ils tout intérêt à le faire ? Parce qu'ils ont des obligations d'équilibre budgétaire. En France, c'est l'article L411-2 du Code de la propriété intellectuelle qui fixe cela. Et que les offices se rémunèrent principalement grâce aux redevances sur les brevets qu'ils acceptent. Ils ont donc tout intérêt à accepter les brevets et à voir la brevetabilité s'étendre à des domaines dont elle était jusqu'ici privée, comme les logiciels. La suite, vous la retrouverez sur http://ffii.fr. En tout cas, il a appuyé là où ça fait mal, quoi.
Absolument, il a dit l'essentiel. Et puis, bon, il y a tout le côté politique qui fait que il y a une énorme contradiction entre le fait que, par exemple, la gendarmerie nationale aujourd'hui s'équipe en logiciel libre à la demande du gouvernement et que, par ailleurs, le gouvernement ne prenne pas une position claire sur ces problèmes-là.
Justement, la gendarmerie, Dimitri.
Oui, effectivement, je voulais vous parler de cet aspect. La gendarmerie donc, qui a annoncé le 14 janvier, donc c'est assez récent, la signature de cet accord, que la gendarmerie, donc tous les postes de gendarmerie vont être équipés avec Open Office, de la suite bureautique libre. Donc aujourd'hui, c'est 35 000 utilisateurs, ça sera 80 000 utilisateurs au début de l'été et la totalité des gendarmes d'ici la fin de l'année. Donc effectivement, une telle signature a quelques répercussions, et notamment du côté de la firme de Redmond, qui ne va sûrement pas laisser passer ça comme ça, et qui va sans doute réagir. Donc attendons.
Voilà, il y a des rumeurs concernant ces réactions, comme quoi ils diraient « voilà, on vous fait plus de support », etc. Enfin, je crois qu'ils ne sont pas très contents, quoi.
Ce qu'on pourrait ajouter aussi, c'est que la gendarmerie, c'est l'armée. Et donc, si la gendarmerie s'intéresse aujourd'hui à Open Office, on peut se dire que l'armée s'y intéresse aussi, l'armée dans sa globalité.
D'un autre côté, ce n'est pas nouveau que l'armée s'intéresse aux logiciels libres. Je crois que l'armée a déjà bien compris l'intérêt des logiciels libres, notamment en termes de sécurité. C'était le général Desvignes qui, il y a un an et demi, lors du STIC à Rennes, avait fait une conférence assez éloquente sur les dangers de confier la sécurité nationale et des logiciels provenant des États-Unis, quoi, dont on ne sait absolument rien. Alors que justement, l'avantage avec le logiciel libre, c'est qu'on a la maîtrise complète du logiciel. Et oui, et notamment pour des données sensibles comme la sécurité nationale, je pense qu'il vaut mieux savoir ce qu'on fait, savoir qu'est-ce qui touche à ces données, quoi. Mmh.
Est-ce qu'on a bouclé les nouvelles du front ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Oui, il faut passer à la suite.
Ce qu'on peut dire quand même pour finir, c'est que Solaris 10 de Sun est sorti le 13 janvier, que la version open source sort, elle, le 31 janvier, donc on est le 27, ça fait dans quelques jours, que c'est la réponse de Sun à Linux, qu'ils l'ont mis sous une licence qui ressemble à la licence de Mozilla, et que nous ferons un test très prochainement et que nous en parlerons donc très bientôt.
Un autre détail.
Oui, une dernière information lue sur le site format-ouvert.org. C'est un projet de loi donc, sur l'égalité des droits qui exige l'accessibilité notamment des sites web publics. Enfin, les sites web publics, c'est les sites web des services publics, tout ce qui est collectivité territoriale, établissement public qui ont des sites web. Donc il y a un projet de loi qui est passé récemment et qui impose à ces sites web d'être accessibles aux non-voyants, à toutes les personnes qui ont des handicaps, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et tous les sites web publics ont 3 ans pour se mettre en conformité sous peine de sanctions.
D'ailleurs, on peut dire que ce n'est pas le cas pour la ville et le département, la région de Montpellier. On peut dire que ce n'est pas le cas non plus dans le Gard. C'est le cas à peu près, par contre, en Lozère, bizarrement. Il faut dire qu'en Lozère, la ressource informatique du département que j'ai rencontré sont des férus de logiciels libres, donc ça s'explique un peu. Et c'est vrai que dans la Languedoc-Roussillon, qu'on connaît ici assez bien, la situation est assez catastrophique, autant au niveau de l'interopérabilité. Pour eux, il n'y a qu'un seul système qui existe, c'est Windows. Dès que vous êtes sur Mac, l'affichage est vraqué. Sous Linux, n'en parlons pas. Tout est en Flash, en Java. Et sans bien sûr d'accès pour les non-voyants ou les malvoyants.
Et je pense que la qualité des systèmes, des serveurs et des services qui sont proposés ne dépend absolument pas de la richesse du département, de la région. D'ailleurs, des exemples prouvent le contraire, comme l'Estremadour en Espagne, qui est la région la plus pauvre d'Espagne et qui est finalement la région qui est techniquement la plus évoluée parce qu'elle a su imposer les logiciels libres un peu de partout. Et elle a su s'en sortir grâce à ça. C'est un peu le cas en France aussi avec la région Limousin qui est pas très riche et qui s'en sort beaucoup mieux que d'autres régions.
Ce qu'on peut dire pour finir dans les nouvelles neuves, on pourrait dire, c'est qu'il y a maintenant un serveur IRC sur Divergence qui s'appelle irc.divergence-fm.net. Le canal, c'est Divergence FM, en un seul mot. Vous pouvez nous y rejoindre, bien sûr. Vous pouvez maintenant nous écouter depuis déjà quelques jours en Ogvorbis sur le stream en cliquant sur le petit poisson qui est sur le site. Vous pouvez aussi nous écouter grâce à Peercast à une qualité équivalente sans aucun souci. Maintenant, en plus, il marche très très bien.
Divergence est de retour sur Peercast.
Exactement. Et aussi, vous pourrez nous écouter sur votre lecteur de DVD. Cherchez Divergence. Je ne vous en dis pas plus.
Voilà, on est sur Shoutcast. On peut le dire. Il ne faut pas le taire.
Par contre, en moins de qualité.
Voilà, on va dire, ouais, c'est une différence assez ténue. En parlant de son et de musique, ben il est temps d'en passer. On va écouter Miss Helium, un groupe créé en janvier 2002 dans les montagnes des Alpes-Maritimes, avec l'association de Ticho et Toff, un guitariste de longue date, LTS et un machiniste chanteur, Le Poulailler. En octobre 2002, changement de guitariste avec l'arrivée de Pascal, qui avait joué dans les Bérus, par exemple. Et en octobre 2003, un deuxième guitariste fait son entrée, Tournesol, qui joue pratiquement sporadiquement avec le groupe. Leur musique est sous licence musique libre version 1.0 et nous écoutons Attaque la banque.
Le triomphe de l'Occident repose avant tout sur la religion matérialiste du bonheur terrestre par la consommation et de la satisfaction toujours renouvelée des désirs. Le profit, l'argent, la propriété. Vive la société de consommation pour les riches et pour les pauvres.
Attaque la banque mondiale. Attaque la banque et brûle le fric. Attaque
Voilà, ça s'appelle Miss Helium attaque la Banque mondiale et brûle le fric. Ça, c'est pas une incitation à brûler le fric de la Banque mondiale, je m'y connais pas. Voilà, donc c'est Miss Helium, vous pouvez les retrouver sur miss-helium.org, une musique sous licence musique libre version 1.0. En parlant de musique libre, eh bien, on est en ligne avec Dominique Godon. Bonsoir Dominique.
Salut à tous.
Bonsoir Dominique.
Salut Dimitri.
Et Albert aussi.
Et bonsoir. Salut Albert.
Voilà, alors tu es là avec nous pour nous parler de plusieurs choses. Peut-être à commencer par... Tu es allé en Italie pour voir l'avènement des licences Creative Commons dans ce beau pays beauté.
Exactement, ça se passait à Turin, c'était le 16 décembre dernier. Et j'y suis allé avec Marianne, qui est le tour manager et bookeuse du groupe Godon. Et donc on a assisté à la conférence de lancement officielle des versions italiennes de Creative Commons. C'était très très intéressant, enrichissant, super bien organisé pour la partie conférence, avec des speeches de tout un tas de gens, et le clou en quelque sorte de la conférence avec Lawrence Lessig lui-même, le fondateur de Creative Commons, qui était là. Arrivé un peu en retard, mais bon, il est venu présenter son projet. Il y avait aussi des instances de Creative Commons européennes, en la personne de Christian Aschenfeld, et tous les juristes italiens, des députés verts. On s'est rendu compte qu'il y a vraiment une communauté autour de la diffusion libre, comme ça, en Italie, qui est très très active. Et on a eu des nouvelles d'ailleurs très récemment, j'ai posté à ce sujet sur Linux.fr, d'une proposition qui a été faite par les activistes de Creative Commons en Italie, au Parlement italien. Cette proposition, c'était d'aller dans le sens, en fait, ce qui est subventionné par l'argent public devrait logiquement être dans le domaine public. Donc ils sont très très actifs et pour nous ça a été très très enrichissant. Mmh.
Donc si j'ai bien compris, il s'est passé en Italie un peu la même chose qui s'est passé en France, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait un portage voilà. Du contenu légal des licences Creative Commons au droit italien, tout comme ça a été fait pour le droit français.
C'est ça, parce que en fait donc Creative Commons ça vient des États-Unis à l'université de Stanford. Et donc aux États-Unis, le droit d'auteur s'applique vraiment dans le strict cadre du copyright. Et il n'y a pas aux États-Unis les aspects droit moral de l'auteur, droit patrimoniaux, etc., comme on peut les avoir en France et en Italie. Donc en novembre, c'était le lancement en France des licences Creative Commons, adaptées, traduites et adaptées au droit français. Et c'est la même chose qui s'est passée en Italie avec... les universitaires et les juristes italiens de High Commons, qui est l'organisation qui s'occupe au niveau international du portage des licences dans les différents pays et juridictions.
Tu as parlé tout à l'heure justement du fait que l'argent public et les logiciels libres étaient une chose importante.
Oui.
En fait, ils ont, si je ne m'abuse, recréé ce qu'a fait l'Adulacte en France.
Alors, je ne connais pas assez ce qu'a fait l'Adulacte pour te répondre.
L'Adulacte, en fait, c'est un organisme dont je crois François Elly est le président,
ouais.
Qui a pour but de faire développer des logiciels libres qui sont payés en fait une fois dans leur développement et qui après deviennent libres et donc non payants pour leur utilisation dans les organismes divers et variés.
Public,
oui, en général territoriaux.
Ouais.
L'Adulacte, en fait, c'est une association pour les administrations et les collectivités territoriales.
Voilà. Ça y est, ça me revient. Alors, en fait, la proposition des activistes italiens Creative Commons, je pense qu'elle va... Enfin, c'est pas qu'elle va plus loin, mais ils envisagent cette proposition de loi, en tout cas, pour tout ce qui représente le droit d'auteur. C'est-à-dire pas seulement le logiciel. Ils prennent un exemple. La représentation d'une œuvre par une artiste lyrique, par exemple, a nécessité des fonds publics, eh bien, les droits voisins, donc, seraient normalement en droit de réclamer ou de revendiquer cet artiste, étant donné que sa prestation a été subventionnée sur des fonds publics, eh ben, ces droits-là sont inexistants et ça tombe dans le domaine public. Et les Italiens apparemment sont très sensibles à ça, c'est-à-dire à constituer cette base de données, ben, quand on pense à la musique classique, entre autres, mais pas seulement, ça peut devenir énorme. Et le but, c'est que ce soit vraiment librement accessible, au plus grand nombre, à tous. Et c'est vraiment l'idée du bien commun, quoi.
En gros, on pourrait espérer que l'État finance, par le biais de son ministère de la Culture, finance des artistes comme ça, quoi, quelque
voilà,
part.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en tout cas, dès lors qu'un artiste est subventionné par des fonds publics, la production qui en découle est directement accessible, comme peut l'être accessible un morceau de musique sous licence Creative Commons, par exemple.
Donc, pour l'accès à la culture, c'est un grand pas en avant.
Je crois vraiment, oui, c'est vraiment l'idée du bien commun. D'ailleurs, Lawrence Lessig a été attaqué, ça a fait du bruit. Bill Gates en a sorti quelques-unes de bonnes en les traitant de communistes. Et Lessig a répondu en disant que pas du tout, et qu'en fait c'était plutôt communiste, c'est-à-dire aller dans le sens du bien commun et que tous, en tout cas le plus grand nombre, puissent avoir accès au maximum de culture.
Alors, un petit détail qui a son importance, est-ce que sur cette ouverture, inauguration, ou appelons-le cette présentation, ouais, qu'il y a eu en Italie, est-ce que la presse italienne était présente de façon importante ?
Il y avait...
Parce qu'on sait, je dis ça parce que on connaît la presse italienne. Elle est à la fois très nombreuse, mais à la fois dans les mains du même, à et savoir un certain dont je ne citerai pas le nom.
Ouais. Oui, en Italie, c'est vraiment terrible, quoi. À cette occasion-là, on a pu constater à quel point les aspects médiatiques, télévisuels, radiophoniques sont victimes d'une tentative, en tout cas, de contrôle comme ça par les plus hautes instances du pouvoir. Mais en tout cas, lors de cette conférence, de ce lancement officiel de Creative Commons, donc toute la conférence était filmée. On peut retrouver sur le site italien de Creative Commons les interventions des uns et des autres. Après, alors il y a les grands quotidiens nationaux, La Repubblica, je crois qu'il y a La Stampa, d'autres, je ne me rappelle plus vraiment le nom, qui ont relayé l'information de manière assez concise et assez rapide. Et sinon, il y a pas mal de webzines, et par contre, alors là, si c'est une chose qui est difficile à contrôler, en Italie, c'est quand même pas la Chine, hein, sur Internet, il y a quand même pas mal de sites qui s'intéresse au libre, etc. Il y a une communauté autour du logiciel libre aussi, Linux, qui est très très active, et donc l'événement dans l'ensemble a plutôt été bien relayé. Par contre, là où je mettrais un bémol, mais je l'avais déjà mis sur le lancement en France, théoriquement après la conférence, tout le monde bougeait dans un bar au bord du pot, où on allait justement prendre un pot, c'était l'apéro, quoi. Et en fait, au niveau musical, c'était assez restreint, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, de ce côté-là, ça a été un petit peu mis de côté, quoi. Mmh.
Alors, tu t'es aussi rendu à Bordeaux pour le lancement de la plateforme de téléchargement de musique-libre.org.
Ça, c'était samedi dernier, ouais. Et on a joué à cette occasion avec Godon, en compagnie de... Eh ben, aléatoire.org et Flathead, qui a le label alphatester.com, c'est un label londonien, et qui était à Bordeaux pour l'occasion. Donc en fait, c'était une journée avec à 17h une conférence de presse, enfin en quelque sorte, une présentation plutôt de ce que les membres de musique-libre.org appellent eux-mêmes la version 0.9 de la plateforme de téléchargement de musique libre. Donc à 19h, un apéro radio libre à l'Inca, le lieu où avait lieu à 21h la fête du lancement de la plateforme.
Donc il faut préciser que musique-libre.org pendant un petit moment a été offline,
ouais.
Donc justement c'était pour mieux préparer ce portail.
Voilà, alors là maintenant c'est vraiment sur les rails. Il y a des très légers soucis techniques, mais qui sont en passe d'être réglés ou qui sont réglés. Et par contre, il faut noter une nette augmentation de la fréquentation depuis ce lancement. Il faut dire que l'événement a été annoncé dans les colonnes de Libération, dans l'agenda de Libération. Il a été annoncé aussi le site musiclib.org sur France Inter grâce à Vali, système disque, le samedi sur Inter. Il y a un très très bon article à paraître dans les cahiers multimédia de Sud-Ouest, mais qui est déjà en ligne sur musiclib.org et le lancement de Musique Libre. Et donc le forum est très actif. Et puis les musiciens inscrivent leurs titres en permanence dans l'archive et ça tourne plutôt bien.
Mmh. Il n'y a qu'à faire un tour sur Internet et voir les différents sites de par le monde sur lesquels on peut télécharger de la musique libre pour se rendre compte que c'est de moins en moins confidentiel, on va dire.
Ouais.
Et il y a des musiques de bon niveau qu'on peut retrouver sous licence libre. Ce qui était peut-être plus difficile à trouver il y a ne serait-ce que quelques mois ou quelques semestres.
C'est clair. Et au niveau de la confidentialité, j'aimerais simplement porter à votre connaissance, à la connaissance de tous ceux qui nous écoutent aussi, l'initiative d'Europe 2, qui n'est pas connue comme étant une radio super libre. Et
certes.
C'est plutôt groupe Lagardère et on y va à donf dans le truc vraiment commerce. Et donc le lundi 17, dernier, 17 janvier, c'était le coup d'envoi d'une campagne orchestrée par la SACEM. Tout le monde a vu dans les villes les grands 4x3 avec les vedettes qui pleurent parce que, soi-disant, le téléchargement, tout ça.
Warf.
Et bien donc, à Europe 2, un des journalistes d'Europe 2, je peux le citer, il s'appelle Ekel, nous a interviewés et a diffusé l'interview au journal de midi, le 17, en quelque sorte en face de cette campagne. Bon, évidemment, c'est dérisoire. Et d'un côté, il y a des millions d'euros, des affiches. Bon, il faut aussi signaler un énorme cafouillage. Par exemple, on voyait Louis Chédid sur ces affiches. Et les titres de Louis Chédid sont encore, je pense, introuvables sur les plateformes légales. Et de l'autre côté, un groupe comme ça qui défend un modèle qui... Bon, mais c'est pour dire, Europe 2, ça commence tout doucement à sortir de la confidentialité quand même.
Je crois que c'est vraiment inévitable. Il y a qu'à voir. Je crois que d'ailleurs sur le site de godon.org, on peut trouver l'article de cette américaine qui explique un petit peu ce qui se passe aux États-Unis dans son cas personnel, mais qui a un discours un petit peu plus large. Le fait de distribuer librement sa musique sur Internet ne nuit pas du tout à sa diffusion et à sa vente. Au contraire.
Elle va bien plus loin, elle décrit par le menu le comportement des intermédiaires, des producteurs et le contenu des contrats. Le contrat de base qu'un musicien signe avec une major, c'est monstrueux, quoi. Il y a plus de latitude d'action, quoi. On devient en quelque sorte pieds et poings liés. Et ce qu'on demande à l'artiste dans la culture américaine, c'est de faire le show correctement, voilà, au moment où le show a lieu, là, il faut que ce soit nickel. Après, tout ce qui est les questions d'argent, c'est les gens qui s'occupent de l'argent qui s'en occupent.
Mmh. Albert, tu voulais...
Oui, seulement dire qu'il suffisait de se rappeler de ce qu'a fait Wired, le magazine de nouvelles technologies américaines, il y a seulement quelques mois aux États-Unis. C'est quand même un magazine qui est tiré à plus de 400 000 exemplaires, si ma mémoire est bonne. Ils ont sorti en fait un CD sur lequel il y avait un CD de 12 ou 13 titres, sur lequel il y avait que des musiques libres,
ouais.
Et notamment de chanteurs connus.
Très, très connus. Ouais,
très, très connus, qui ont accepté pour ces chansons-là de les placer sous licence Creative Commons, si ma mémoire est bonne.
Oui, il y a notamment
Gilberto Gil.
un morceau des Beastie Boys, de Morning Jackets, un morceau de Gilberto Gil, qui est le ministre brésilien de la culture, David Byrne, ex-Talking Heads. Donc voilà, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure à propos du lancement en France et en Italie des licences Creative Commons où le côté show, un peu concert comme ça a été mis de côté. Le lancement au Canada a donné lieu à un concert Creative Commons où se sont produits David Byrne, Morning Jackets, etc. Et donc là, l'impact médiatique et auprès du public est bien plus... c'est bien plus marquant, bien plus important, quoi. Mais c'est juste ça que je soulignais à propos de l'Italie et de la France.
Et c'est une bonne chose. On va se... Oui, Dimitri.
Oui, je voulais rajouter peut-être un dernier truc. C'est, on pourrait dire que la musique libre, quelque part, elle peut percer du fait de cette relation de respect qu'il y a entre l'artiste et l'auteur, qui fait un peu le contrepoids avec notamment cette campagne qu'il y a actuellement, Téléchargez-moi légalement, alors que en fait, c'est pas seulement Louis Chédid qu'on ne peut pas trouver. Il y en a,
plein
qu'il y en a la moitié qu'on peut pas trouver ou on peut pas trouver leur dernier album. C'est un peu du foutage de gueule, ce truc. Quoi.
Ouais, et puis, juste pour terminer, toute fin, c'est une tentative de faire penser que télécharger, donc légal, c'est payant. La légalité est payante et que le libre accès, lui...
est illégal.
Est illégal et ça peut pas passer. Donc, heureusement, on a quand même des gens comme ça, je parlais desquels à Europe 2, il y en a d'autres... Qui eux-mêmes ne peuvent pas laisser passer ça, qui sont curieux, qui s'intéressent et qui nous posent des questions.
Ce qu'on peut dire pour finir, c'est que la musique est libre et que les gens qui veulent pouvoir écouter de la bonne musique peuvent aussi la trouver sous licence libre. En tout cas, on te remercie Dominique d'être venu nous parler un peu de ce qui s'est passé en Italie et sans doute à très bientôt, soit sur le net, soit dans un salon. Ou
tu reviens nous parler à la radio aussi quand tu veux.
Hein. Ok. Pas de problème.
Merci.
Merci, à bientôt.
À très bientôt, Dominique.
Ciao. 500 channels of shit to choose from. L'os sourit dans la boîte noire. Plus fort, silence. Un tuyau se vide dans les crânes vides de nos chers publivores, téléphages, cinéphiles. Poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Du direct, du live, de la fesse, de la viande, du bonheur. T'es branché, connecté sur rien, ça trempille, t'es bien. Mate la gonzesse, c'est de la boucherie esthétique. Acérie, VIP, Pamela qui déconne. La scène VIP, c'est comme...
Le glas du paf. Le glas du paf. Le glas du paf.
L'enfer des cités, la zone téléguidée, le casse du jour, la prostituée sans visage, Babylone, Haute-Garonne, la goutte au front, l'œil fuyant l'œil, le doigt tendu vert. C'est pas moi, j'ai rien fait, je suis honorable président, maire, député, conseiller, PDG, ou mieux, présentateur télé. Voici venir l'heure du pays heureux qui n'existe pas. Le show capote, la parabole molle, le codeur crame, il fait trop chaud, y'a plus de bière, la mire est belle. Le dernier film a pour titre...
Le glas du paf. Le glas du paf. Le glas du paf. Hey. Ça, 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 ça. Hey. C'est Franck et Guerre. Les sans-papiers, les sans-toit, les sans-argent, les sans-vie, les sans-contaminés, les sans trop chers. Il y a aussi les sans-parents, les sans-têtes, les sans-baskets, les sans-tout, les sans-rien qu'on filme. Pourquoi pas les disséquer pour voir ce qu'il y a dedans? Pourquoi pas la story dans toutes les chaumières? Le people dans tous les apparts? Le crime à l'étage? Ça, c'est la dernière rengaine. Le glas du paf. Le glas du paf. Le glas du paf. music for the nice people, Pavlo Denis, Publicis, Sip de Market, Senior Manager, le Cyclone Jet Set, le Million Pet Sec, la Maxime Spread, le Papillon Madeleine et déclenche le cyclone. Et tu restes là immobile, tes pensées tombent du ville, tu bloques, tout débloques, pas finir en lock. La rouge, la bleue, laquelle tu croques, clin d'œil du gros œil, paf, t'as la dose, là c'est le turbin, tu décolles, fuis ça. Tu déconnectes et c'est. Le plat du paf!
Voilà, le glas du paf, un remix d'un morceau de Godon que nous avions déjà entendu, un remix eh bien, réalisé par Dantan, dont on saura plus une autre fois. Eh bien, en attendant que Thierry Stoer nous rejoigne par téléphone lui aussi pour nous parler eh bien, de solutions Linux, eh bien, un détail, j'ai reçu un petit communiqué de presse disant que Arcos, un constructeur assez connu de produits jukebox recorder, des petits baladeurs MP3 avec des disques durs dedans, qui font même appareils photo, magnétoscope, etc. Mmh. Qui a été, il faut le souligner, un précurseur dans son domaine, une société basée à Irvine en Californie, eh bien, seront présents à Solutions Linux pour la simple et bonne raison que dans leur dernier produit phare, à savoir un jukebox donc qui peut aussi enregistrer de la vidéo, faire des photos si on lui adjoint le petit capteur 3 millions de pixels qu'ils ont sorti l'année dernière, qui peut aussi sur ce dernier produit eh bien, se connecter à Internet, que ce soit en Wi-Fi, en Ethernet ou en USB, eh bien, cette dernière sortie tourne sous Linux. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors peut-être qu'ils ont été un petit peu poussés aux fesses, si j'ose dire, par les gens de Rockbox, puisque depuis quelques années déjà, il y a des gens qui développent du libre et qui ont développé un système d'exploitation alternatif à celui qui est propriétaire dans le matériel Arcos et qui eh bien, le bat à plate couture, j'ai envie de dire, puisque si on va faire un tour sur rockbox.org, en tout cas, si je me gourde d'extension, vous pouvez toujours taper Rockbox dans Google, eh bien, y a plein d'améliorations, notamment une plus grande autonomie des batteries, notamment beaucoup plus de fonctionnalités, que ce soit en recherche, avance rapide, du shifting sur les jukebox recorders, etc. Donc plein de bonnes choses. Donc peut-être qu'ils se sont dit chez Arcos, quand même les mecs qui font du libre, ils assurent quoi.
Et aussi le support de Ogvorbis, parce qu'au départ les Arcos ne font que du MP3 et c'est vrai qu'avec Arcbox on peut aussi enregistrer un format Ogvorbis.
Voilà, ce qui est une bonne chose.
Et avec la version vidéo en Xvid aussi.
Ah voilà, en Xvid qui était un format libre.
Oui, c'est l'inverse du DivX qui est propriétaire. Le Xvid c'est un format libre qui permet de faire de la vidéo compressée grâce au format AVI de manière très très ténue.
Voilà, donc ils seront présents à Solutions Linux, c'est à Paris. Donc bah, il faut être à Paris ou alors y passer demain ou après-demain.
C'est à partir du 1er février jusqu'au 3.
Voilà, ils seront au stand E11. Voilà, ce dont on se fout est perdu. Mais...
complètement.
Voilà, nous sommes toujours dans l'attente de notre appel avec Thierry Stoer. Alors je crois que nous allons plutôt écouter un petit peu de musique. Un petit peu de musique avec Andrew Vavrek. Andrew Vavrek, c'est un nom qui est plutôt rigolo. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, en fait, qui fait de la musique depuis assez peu de temps. Ça fait des années qu'il écrit des poésies, alors que ça fait très peu de temps qu'il joue de la musique. Donc il a une histoire beaucoup plus longue avec les mots, mais il trouve que, ah bah non, voilà, on l'écoutera après. Je crois que nous avons Thierry Stoer qui est en ligne. Eh bien voilà, on va nous le connecter. On écoutera juste après Vavrek, que vous pouvez retrouver sur http://vavrek.com, vavrek.com. Thierry Stoer, bonsoir.
Allô, bonsoir.
Eh bien, ravi, une très bonne année, une très bonne année à toi.
Eh ben, merci à toute l'équipe aussi, puis à toutes les auditrices, à tous les auditeurs aussi, avec plein de bonnes choses personnelles, et puis plein de bonnes choses pour l'informatique aussi, puis pour les logiciels libres, évidemment.
Tout à fait, et les formats ouverts, format-ouvert.org.
Voilà, et au pluriel pour format, pour ce qui est du site à propos des formats et de l'actualité sur les formats. Alors bah, l'actualité, on va forcément en parler des formats, puisqu'il faut savoir que la semaine prochaine, alors désolé, ça va peut-être créer un petit peu de frustration au niveau des personnes qui ne seront pas malheureusement en région parisienne. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas faire des choses ailleurs. Hein. Appel à ceux qui ont envie d'organiser des choses. Hein. Bref, la semaine prochaine, il y a le salon Solutions GNU Linux. Ce salon, c'est pendant 3 jours plein de choses. Et dans ce plein de choses au CNIT, il y a un espace, comme chaque année, qui est dédié aux associations, qui est organisé par les associations, où il y a une cinquantaine d'associations, si je ne me trompe pas, cette année, avec toutes les associations liées au libre, que ce soit des associations plus générales, comme des très pointues, et à propos d'un seul logiciel. Et en même temps que ces stands pendant 3 jours avec une petite nocturne jusqu'à 20h le mercredi. Donc pendant ces 3 jours, il y a toute une série de conférences qui sont proposées au sein du village associatif, alors avec tout un tas de sujets très différents, dont les formats de fichiers, mais enfin il y a pas que ça. On va parler de Mozilla, on va parler de certains projets européens, enfin il y a une palette assez large. Ça c'est en l'espace d'Alespace Association. Maintenant, toujours aussi accessible à tout le monde, c'est-à-dire gratuite, il y a des conférences qui sont organisées aussi pendant les 3 jours et qui sont donc ouvertes à tous ceux et toutes celles qui ont envie d'y venir. Il y en a une sur Mozilla, il y en a une organisée par l'ADAE, l'Agence pour le développement de l'administration électronique. Et entre autres, à cette matinée du mercredi, on aura les témoignages de la gendarmerie qui vient nous expliquer comment il y a 80 000 postes bureautiques au niveau donc de la suite bureautique qui sont déployés avec openoffice.org dessus, de manière donc tout à fait officielle, comment ils font, quelle formation, quel plan de migration. Enfin, il y aura entre autres ça, ce qui fait que bon, il y aura certainement beaucoup de belles et bonnes choses pendant ces 3 jours, avec évidemment le côté festif un petit peu le soir après les journées, où il y a pas mal de repas qui sont organisés par les différentes associations ou plus généralement, histoire de se retrouver entre personnes qui se connaissent et qui se croisent pas forcément trop souvent. Ça c'est pour le salon donc la semaine prochaine. Maintenant il y a bien sûr un site web sur lequel il y a tout, enfin tout. Il y a une partie des choses qui sont sur solutionslinux.com si je me trompe pas. Et puis et là je vais m'attirer les foudres des copains, à moins que vous ayez c'est plus rapide que moi, mais il y a le site des associations exclusivement qui est, ben je l'ai pas sous les yeux.
Nous non plus.
Voilà, bon, et sur lequel il y a le programme, sur lequel il y a toutes les informations, le plan du village des associations, etc.
Je crois qu'une annonce a été passée par Anne sur Linux.fr, donc allez voir sur Linux.fr, il y a une annonce qui a été faite par Anne de Léa Linux, qui est la webmestre de ce site-là d'ailleurs,
qui vous parle de tout ça. Qui s'est occupée de pas mal de choses avec Loïc Bernable, les deux à citer pour l'organisation. Voilà,
comme chaque année, enfin, comme depuis 2 ans.
Oui, oui, et donc là, il y a eux deux qui sont occupés de tout ça, et il y a le plan qui est disponible, enfin il y a tout plein d'informations pratiques. Et j'ai encore 2 minutes.
Bien sûr. Dans 2 minutes, tu peux y aller.
Allez, alors je vais vous parler. Juste une chose intéressante qui à mon avis, t'a signalé parmi dans l'actualité à propos des formats, mais ça dépasse les formats, puisque ça concerne ni plus ni moins qu'un État. Alors en l'occurrence, c'est l'État du Massachusetts. Aux États-Unis, c'est quand même là où se trouve Boston, mais surtout le MIT, le fameux Massachusetts Institute of Technology. Eh bien, l'État du Massachusetts, il y a 15 jours, a fait savoir par la voix de d'un de ses responsables, dans les 5 premiers responsables de l'État, que, comme il l'avait annoncé l'année dernière, il continuait cette année sa politique concernant les standards ouverts, et plus précisément cette année les formats ouverts, et que très concrètement, il avait établi une liste de formats qui étaient pour lui des formats ouverts, c'est-à-dire des formats indépendants de société, des formats à propos desquels il y avait une transparence complète. Et chose à préciser, ils indiquaient que en l'état actuel, le format de la suite bureautique de Microsoft, la Office 2003, même si c'est du XML, puisque c'est indiqué comme étant du XML, eh bien, comme il y a un certain nombre de restrictions sur ce XML du fait de licences et de brevets, eh bien, au jour d'aujourd'hui, ce format-là, pour l'État du Massachusetts, n'est pas retenu comme format dans lequel ils peuvent et ils veulent conserver, stocker leurs informations, car c'est le texte qui le dit, pour que les documents publics et les archives publiques soient accessibles, et pour que ce soit accessible pendant de nombreuses années, pas seulement pendant 18 mois, eh bien il faut que les formats soient ouverts. Et d'après ce que dit Eric Chris, c'est le nom de la personne, dans sa conférence, il indiquait que pour l'instant, c'était en négociation avec Microsoft pour ce qui est éventuellement d'avoir des levées, des restrictions à propos des licences qui sont appliquées au XML et des brevets qui sont déposés dessus, et que peut-être il y aurait des changements, mais que c'était pas à lui de l'annoncer. Toujours est-il que ça fait toujours plaisir de se rendre compte que à des niveaux quand même assez élevés, c'est tout un état et pas un des moindres, qui dit que les archives publiques, les documents publics établis par toutes les agences, toutes les administrations, doivent être à des formats ouverts pour garantir la pérennité, pour garantir l'indépendance. Et c'est certainement un texte qui est en ligne, qui a été traduit, et qui est à faire circuler, ou en tout cas sur lequel on peut se baser pour dire, voyez, il y a des choses qui se passent, sans oublier, il y a moins d'une semaine, mais là l'article n'est pas encore en ligne, donc ça fait petite exclusivité. Il y a eu un article du directeur de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France, M. Jeannonnet, et qui indiquait qu'il y avait quand même quelques soucis concernant les archives, parce que qu'une seule société puisse archiver et archive le web sans qu'il y ait d'intervention des États, surtout une société cotée en bourse, Google, donc pour ne pas la nommer, eh bien ça soulève un certain nombre de questions, même si le travail qu'ils font est intéressant, même si le travail qu'ils font est tout à fait correct pour l'instant, il y a quand même quelques questions qui peuvent se poser, notamment avec les accords qu'ils ont passés avec 5 bibliothèques universitaires américaines. Voilà, ça c'est l'un des sujets prochains, et même si on pourra en parler beaucoup, l'heure tourne, et j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts en disant c'est bientôt 20h. Voilà, c'était un petit aperçu de ce qui se passe, et puis pour ceux et celles qui le peuvent, rendez-vous la semaine prochaine au salon pendant les 3 jours, du mardi au jeudi, sinon sur Divergence ou sur formatouvert.org, tout au pluriel.
Et on peut rappeler que tu es, toi, sur le stand de l'AFUL.
Pardon ?
On peut rappeler que toi, tu es sur le stand de l'AFUL à Salon.
Je serai sur le stand de l'AFUL pendant les 3 jours, évidemment, puisque fortement impliqué dans l'AFUL. Voilà.
Thierry, merci beaucoup pour toutes ces informations et ces exclusivités. Et puis, on se retrouvera sans doute, pour ma part, pas au Salon, mais dans la prochaine ou celle d'après. Dans
très bien, avec plaisir, et puis bonne soirée à tout le monde.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà celui dont je vous parlais tout à l'heure, Andrew Vavrek, qu'on peut retrouver sur vavrek.com. Le titre s'appelait Healing Luna et c'est une licence Creative Commons by SA 2.0. Ça veut dire il faut citer l'auteur et ne pas modifier... Share alike, ça veut dire...
Si share alike, ça veut dire qu'on peut modifier, mais que si on redistribue des versions modifiées, ça doit être sous la même licence.
Voilà, tout à fait, Dimitri. Merci pour cette précision. En ce qui concernait la musique de Godon, elle est sous licence by NCND, donc ça veut dire pas de travail dérivatif.
Et pas d'utilisation commerciale.
Commerciale, tout à fait.
Sans, je précise bien, sans autorisation de l'auteur. C'est-à-dire que voulez faire une soirée payante en diffusant du Godon, par exemple, vous pouvez très bien les contacter et vous arranger avec eux.
Et non pas avec un gestionnaire de droit lambda.
Voilà.
Ce qui revient bien moins cher à tout le monde et qui rapporte plus à l'artiste. À présent, eh bien, on va terminer avec plein de nouvelles. Alors, il y a l'agenda. On va terminer par l'agenda. Mais tout d'abord, quelques publications, puisqu'ils ont eu la gentillesse de nous envoyer leurs publications. Il s'agit de Linux plus DVD, qui est sorti janvier 2005 d'une maison d'édition d'Europe centrale.
Polonaise.
Et puis là donc c'est un magazine, démarrer les jeux Windows sous Linux sans aucun problème. Alors ça c'est, on va dire que c'est super en public. Malgré tout il y a un DVD avec pas mal de trucs dedans, son spatial dans Linux, Alza et ses configurations avancées. Il y a deux DVD me dit-on. Créer votre propre Quake, tests comparatifs, des moteurs de jeux 3D, etc. etc. Un petit article sur Caféine, un lecteur multimédia pour KDE. Et puis aussi Aurox, A-U-R-O-U-X, avec ce mois-ci une distribution complète de Linux sur 7 CD.
L'Aurox est une Fedora faite par la même maison d'édition qui est en fait fait pour le multimédia et pour l'utilisateur final, on va dire, contrairement à la Fedora qui... D'ailleurs, c'est une Fedora 2, pas une Fedora 3. La Fedora 3, c'est la dernière Fedora disponible et ça, c'est une Fedora 2. Voilà, ils font leur propre distribution qui est en fait une Fedora, mais à la sauce polonaise.
Et voilà, et si vous voulez lire, parcourir ces publications, vous pouvez passer à la radio, on les a, et puis si vraiment ça vous plaît super bien, on pourra même vous les donner. Que dire ? Oui, le dernier numéro, le numéro de février de Linux Magazine France, outre qu'il contient la 15e divergence numérique, celle du mois de décembre, eh bien, titre Solaris 10, la réponse de Sun à Linux.
Et je rajoute aussi que Linux Pratique est en kiosque depuis la semaine dernière avec en couverture donc Firefox. Donc tout un dossier sur Firefox, les atouts de Firefox, tout ce qui est généralement mis en avant, donc l'anti-pop-up, les fils RSS, la recherche intégrée, enfin tout ce qui fait la puissance de Firefox.
Et que l'article est valable autant pour les utilisateurs de Linux que d'autres systèmes d'exploitation.
Bien sûr, parce que Firefox existe aussi bien sous Linux, Windows, Mac OS X, etc. Et probablement d'autres.
Et tout à fait. À noter que sur le numéro de février de Linux Magazine France, il y a aussi un dossier sur embarqué et IHM. Découvrez les interfaces homme-machine les plus utilisées dans l'embarqué sous Linux. L'embarqué, c'est-à-dire que les systèmes embarqués, c'est des systèmes...
Toutes petites machines, sans ventilateur, qui consomment rien, des tout petits trucs, des trucs sympas. On en a même à la radio, voire même deux.
Voilà, tout à fait. Tant qu'on parle de lecture, une nouvelle rubrique fera bientôt son apparition dans Divergence Numérique. Dès le mois prochain. Ce sera la rubrique Biblio.
Voilà, on parlera, je peux déjà vous annoncer, on parlera d'un livre qui est sorti il y a déjà quelques temps, donc Dimitri nous a déjà parlé, qui est le livre de Perline et de
Thierry Noisette, donc c'est La bataille du logiciel libre, 10 clés pour comprendre, qui est un petit livre qui coûte pas cher, 6,50€, et qui est très très bien écrit, je trouve. C'est un livre qui explique vraiment les enjeux du logiciel libre avec des termes clairs, limpides. C'est vraiment un livre à lire, quoi, à mettre entre toutes les mains, entre les mains surtout de ceux qui ne connaissent pas le logiciel libre et qui veulent comprendre quels sont les avantages.
Les tenants et les aboutissants.
Voilà, on aura sans doute aussi en direct ou on aura fait une interview entre-temps d'ici cette date-là.
Et on parlera aussi... Il faut préciser que les auteurs ne pouvaient pas être au téléphone avec nous puisqu'ils sont partis au Brésil,
à
Porto Alegre, pour le sommet altermondialiste, ce qui prouve leur engagement philosophique.
Voilà, et il y aura d'autres bouquins, des éditions les plus connues dans le monde informatique et libre.
Voilà, Jean-Claude, un autre truc dont tu voulais nous parler.
Oui, je voulais signaler à nos auditeurs aussi que PC Expert, qui était un magazine consacré à l'informatique, mais généralement entièrement tourné vers Windows, publie dans son numéro de ce mois-ci un dossier très complet consacré à Linux, en partenariat avec Parinux, donc une association de Linuxiens parisiens. Je conseille à tous ceux qui veulent avoir un point de vue sur l'utilisation de Linux, de lire cet article, parce que c'est fait à l'extérieur de la communauté et c'est d'autant plus intéressant.
Très bien, on va passer à l'agenda, tranquillou. Alors, qu'y a-t-il on a abondamment parlé de solutions Linux. Hein,
c'est oui, donc on va pas en reparler.
Premier 2 et 3.
Donc, justement, on va parler d'événements qui ne se passent pas à Paris, histoire de montrer que, justement, hors de Paris, il se passe quand même beaucoup de choses. Donc, le samedi 26 février, il y aura une journée du libre à l'IUT informatique de Maubeuge, c'est dans le Nord. Donc, vous allez sur associationmailtoutattaché.free.fr. Ce même jour, plus près de chez nous, dans le sud, du côté d'Aix-en-Provence, il y aura une install party organisée par l'AXUL. Donc c'est à l'espace culturel Georges Duby de Palette, de la commune du Tolonnais. Renseignements sur axul.org. Le mercredi 2 mars, un stage d'initiation à LaTeX, qui est un logiciel de composition de texte, à l'IUT Génie Thermique de Dunkerque, dans le Nord, encore une fois, organisé par l'association CLX. Vous allez sur latecdunkerque.objectis.net. Et pour finir, du vendredi 18 au dimanche 20 mars 2005, aura lieu dans toute la France toute une série d'événements autour de la thématique Libre en fête. Donc le but de cet événement est de se rapprocher dans une ambiance festive et familiale des gens ne connaissant pas ou peu le logiciel libre et sa philosophie pour en expliquer les enjeux.
Voilà, et sinon, Albert et moi-même allons tenter de nous rendre à Châteauroux, ce qui n'est vraiment pas compliqué, même si c'est possible.
On va essayer.
Enfin, on va pas prendre le train, je crois, parce que il faut aller jusqu'à Paris pour aller à Châteauroux, aller comprendre. En tout cas, à Châteauroux, pendant 3 jours, va se tenir les 9, 10 et 11 février, 3 jours de rencontres universitaires autour des médias associatifs pour le 9. Et puis le 11, autour des logiciels libres. Ils nous ont contactés parce que ce sont des auditeurs de Divergence Numérique via Linux Magazine France. Et on ne peut que se féliciter de cette invitation que nous allons tenter d'honorer malgré les difficultés que j'ai, moi, à quitter la radio et les difficultés de transport qui sont imposées par C'est Possible.
Exactement. Ce qu'on peut rajouter quand même pour la fin, avant de nous quitter, c'est que vous pouvez nous rejoindre, encore une fois, je le répète, sur le canal IRC de Divergence qui vient d'ouvrir depuis en fait hier, qui est irc.divergence-fm.net. Le canal, c'est Divergence FM en un seul mot, que vous pouvez nous écouter soit en stream Hoc Vorbis
en cliquant sur le poisson.
Sur le poisson, qui est sur le site de Divergence FM, soit vous pouvez nous écouter grâce à Percast qui maintenant fonctionne vraiment très très bien. Je vous assure, on a changé de machine, on a une machine qui est extraordinaire et le flux est vraiment génial, ça marche vraiment très bien. Donc allez sur Percast et pour comprendre comment ça marche sur tous les systèmes, que ce soit Linux, Mac OS X ou Windows. Ou encore, pour ceux qui ont des lecteurs de DVD d'une marque qui utilise du logiciel libre, vous pourrez nous retrouver sur leur liste de radio grâce à Shootcast. Parce que oui, on est sur Shootcast aussi, il faut le reconnaître. À une qualité un tout petit peu inférieure à celle de Log Vorbis, parce qu'il fallait bien qu'on privilégie quand même le libre, même si on est une radio irsienne. Donc à tous, rejoignez-nous, écoutez-nous, venez sur le canal IRC et à très bientôt, au mois prochain. Voilà.
Voilà. J'aurai le mot de la fin en signalant tout de même que ça va mal pour les radios associatives, que ça soit à Montpellier ou ailleurs, puisque la bonification du fonds de soutien est vraiment hypothétique. Donc dans le pire des scénarios, votre radio favorite, en tout cas je l'espère, sera en cessation de paiement au courant mars ou avril. Donc ça va vraiment très mal. Donc si vous voulez vous renseigner, vous allez sur cnra.asso.fr, cnra.asso.fr ou sur divergence-fm.org pour avoir des nouvelles de la mauvaise santé du fonds de soutien à l'expression radiophonique qui risque de se trouver dans l'impossibilité
de payer ce qu'il doit payer. Il faut savoir que le fonds de soutien à l'expression radiophonique, ce n'est pas de l'argent public, c'est une taxe que paient les régies publicitaires en France et des régies publicitaires dont certaines ne paient pas la taxe depuis quelques temps, je dirais même quelques années. Et contre ça, eh bien, la volonté politique semble être aujourd'hui à zéro, à savoir que les dernières déclarations du ministre des Communications et Tutti Quanti, Monsieur Renaud Denodieu de Vabre, me semble-t-il, qui avait si bien été caricaturé par notre ami Jérôme Sier sur notre site il n'y a pas si longtemps que ça, c'est plutôt exprimé en disant que les radios associatives, ça coûtait cher, plutôt qu'en faisant respecter la loi, ce qui est franchement un scandale. On va se quitter avec une musique qui résume bien l'état d'esprit dans lequel je me trouve à présent après avoir parlé de ça, c'est Blue Sound Traffic, un groupe qui vient du Portugal, entre métal et non métal. On va écouter leur musique qui est sous licence Creative Commons by SA 2.0. En vous souhaitant à tous une très bonne soirée. Au revoir à tous.
Et à très bientôt, on espère.
Et je remercie Caroline Novara qui a assuré la régie de cette 16e divergence numérique. Bonne année à tous.
Les gens ont l'air tristes et sombres.
Vous posez trop de questions, Monsieur Johnson. Parce qu'il manque d'électricité.
Divergence.